France Inter. Pierre Veille. Le téléphone sonne.
Le téléphone sonne, c'est votre émission, vos appels, vos questions, vos témoignages. Ce soir, jusqu'à 20h, la 5G, la dernière génération de technologies mobiles, elle suscite un climat de méfiance avec des interrogations sur les risques potentiels qu'elle induirait pour la santé, son impact sur l'environnement, interrogations sur son utilité même. La 5G est aussi la cible de théories complotistes l'associant à l'épidémie de coronavirus. Des dizaines d'antennes de téléphonie ont été incendiées dans l'Hexagone ces derniers mois, comme dans d'autres pays européens, dont le Royaume-Uni. La Convention nationale pour le climat s'est prononcée pour un moratoire le temps d'une évaluation et plusieurs maires écologistes élus récemment ont demandé l'ouverture d'un débat sur la 5G. Le gouvernement, de son côté, a rappelé que les enchères pour l'attribution des fréquences 5G aux opérateurs auront lieu en septembre prochain. La 5G promet des débits 10 fois plus rapides que la technologie précédente. Télécharger un film en HD ne prendra plus qu'une seconde. Jeux, séries, informations, tout ira plus vite et consommera moins de batterie. Tout ce que vous voulez savoir sur la 5G, c'est maintenant. Nos invités vous répondront.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et nos invités, je vous les présente dans ce studio. Hervé Lebars, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ingénieur et porte-parole de l'Association française pour l'information scientifique. En ligne au téléphone, Julien Nocetti, qui est chercheur associé à l'Institut français des relations internationales et professeur aux écoles de Saint-Cyr-Coët-Quidan. Bonsoir, Julien Nocetti.
Bonsoir.
Et en ligne numérique avec nous, Alain Sibyl, professeur à Télécom Paris Tech et secrétaire général d'URSI France, la branche française de l'Union Radio Scientifique Internationale. Alain Sibyl, bienvenue sur l'antenne de France Inter.
Bonsoir.
On va au standard. Jacques est à Lyon et nous écoute. Bonsoir Jacques.
Oui, bonsoir.
Posez votre question.
Alors, je ne crois pas faire partie des complotistes. Simplement, je me méfie quand même de tous ces merveilleux joujoux et toutes ces choses extraordinaires qu'on nous promet qui vont vous permettre de faire les choses 10 fois plus rapidement. Je ne sais pas d'abord si ces choses vous rendront nécessairement heureux. Et ce que j'aimerais savoir, c'est quel sera le coût en énergie. Parce que c'est une chose à laquelle on ne pense jamais. Tout ce qui est Internet, tout ça, on imagine que c'est gratuit, ça ne coûte rien. Puisque j'aimerais savoir quel sera le coût en énergie et donc l'impact sur l'environnement de cette fameuse 5G qui est censée nous apporter des tas de merveilles et des choses extraordinaires.
On vous répond, Hervé Lebars.
Oui, alors bon, le fait de considérer ça comme des joujoux, à la limite ça vous regarde, il y a des applications très sérieuses qui sont envisagées, mais pour revenir précisément à votre question sur l'énergie, il se trouve que comme dans le cas de beaucoup de technologies, lorsqu'une nouvelle génération arrive, elle est plus sobre en énergie pour un même service, c'est-à-dire que pour le même service, elle va permettre d'utiliser moins d'électricité. C'est comme une voiture. Les voitures ont tendance, au fil du temps, au fil des améliorations techniques, à consommer moins pour chaque kilomètre parcouru. En revanche, c'est sûr que si les usages explosent, c'est-à-dire que si vous avez quelque chose qui consomme moins, mais avec davantage d'usages, davantage de terminaux, davantage, etc., évidemment, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond dans l'étude des technologies, l'effet rebond, c'est-à-dire que vous avez au final une consommation électrique qui peut être supérieure. Donc tout dépendra des usages et de l'utilisation.
On peut imaginer que la 5G va être largement utilisée.
Voilà, on part du principe qu'elle est utilisée comme la 4G, ce sera plutôt moins en termes d'énergie. Si on part du principe qu'elle est utilisée davantage et que les usages explose ou sont multipliés par 10, vous pouvez compter grosso modo une multiplication par 10. Après, il faut situer ça par rapport au reste de la consommation électrique d'un pays. Les grille-pains consomment aussi beaucoup et les fer à repasser beaucoup. Il faut aussi voir ça et comparer les choses.
À ce propos, des questions sur le site de l'émission, Johan à Courbevoie. Est-ce que la 5G va augmenter la consommation d'électricité, ce qui serait évidemment désastreux pour l'environnement? Alain Sibyl, qu'en pensez-vous, professeur à Télécom Paris Tech?
Oui, ben évidemment, mais je ne fais que rejoindre ce qui vient d'être dit. Globalement, on a une augmentation des communications, des besoins en communication, et comme ça a été dit, les équipements de la 5G sont beaucoup plus performants, beaucoup plus efficaces et intelligentes que dans les générations précédentes. Et donc, en termes de débits qui sont permis, on parle de gigabits par seconde, crête par exemple. Mmh. Donc on est de plus en plus utilisateur de ces données absolument massives et ça génère une consommation qui est nécessairement plus importante. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Et effectivement, il faut mettre en relation l'augmentation générale des besoins qui sont ceux de la population pour des utilisations privées, personnelles, professionnelles, de façon extrêmement générale, et le fait que la consommation électrique globale va augmenter, mais elle va pas augmenter en proportion. Donc c'est vraiment ça qu'il faut mettre en regard. Cette bien plus grande efficacité s'accompagne de besoins beaucoup plus importants, et donc nécessairement nos technologies sont plus efficaces, mais il est vrai qu'on aura une consommation énergétique qui va croître.
Et c'est pas bon pour l'environnement.
Alors, c'est pas bon pour l'environnement, ça dépend de quel point de vue on se place. Déjà, ça dépend quelle est la source d'énergie. Donc, si ce sont des sources non renouvelables, voire polluantes, évidemment, c'est pas bon pour l'environnement. Si on arrive à avoir des sources d'énergie qui sont plus vertueuses, plus respectueuses, bah, c'est peut-être un peu moins bon, mais c'est beaucoup moins dramatique que dans le passé. Donc, en fait, la problématique est extrêmement globale. La 5G n'est qu'une instance, disons, parmi l'ensemble général du développement des communications généralisées et puis de la technologie, des sources d'énergie nécessaires. C'est une instance parmi un ensemble. On parle beaucoup du numérique, donc la 5G, bien sûr, c'est un moyen d'aider au développement du numérique, mais c'est un moyen parmi un ensemble de technologies, et là, sa propre consommation, et elle contribue, disons, de façon générale. Il ne faut pas la voir comme l'élément unique, mais comme un élément parmi tout un ensemble.
Question d'Anthony sur le site de l'émission en Seine-Saint-Denis. Pouvez-vous définir la 5G, ses performances, par rapport à la 4G actuelle? Qu'est-ce qu'elle apporte de plus, cette 5G? Hervé Lebars.
Alors, sur le plan des services qu'elle va apporter, c'est d'une part une meilleure fiabilité, c'est-à-dire que aujourd'hui dans les réseaux mobiles, vous avez souvent des coupures, en particulier quand vous êtes dans des transports et même quand vous êtes dans des zones peu couvertes. Donc ici, on a cherché, enfin les promoteurs de cette technologie ont cherché à faire en sorte que la fiabilité soit quasi parfaite, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de coupure. Y compris en déplacement, et d'autre part que ça permette aussi de résoudre certains problèmes de lorsqu'il y a énormément de monde dans une zone géographique. Mm-hmm. La 4G atteint des limites, c'est-à-dire qu'il y a des interférences entre les différentes personnes, c'est-à-dire que si une personne téléphone, une autre ne pourra pas téléphoner. Donc quand vous avez des grosses concentrations de population, la 5G permet de continuer à je dirais parler tous en même temps. Ce que la 4G ne permet pas à un certain moment.
Et on a beaucoup de courriels, de questions, Alain Sibyl, à propos des usages prévus de cette 5G. On nous parle de contrôle d'objets à distance, de télémédecine. Alain Sibyl.
Oui, alors en fait, c'est la vraie innovation par rapport à la 4G notamment. Ça va être l'Internet des objets dont on parle depuis longtemps. Mais c'est vrai que la 5G va être un moyen très important de généraliser l'Internet des objets. Donc l'Internet des objets, bon, c'est des applications dans la maison, mais aussi dans le monde industriel. Et donc cette notion de fiabilité qui vient d'être évoquée, qui est associée d'ailleurs à une notion de très faible latence, elle va avoir une grande importance pour des applications de type machine pour machine, vers les machines, dans le domaine de la santé, dans le domaine du véhicule, pour lequel il faut qu'on ait à la fois une très grande fiabilité, mais également des temps de réaction très courts. Et ça, c'est la vraie innovation. Et donc, quelque part, ce sont des services tout à fait nouveaux et qui vont participer, je dirais, alors on va dire au développement économique, au développement de ces technologies. On a parlé de la voiture connectée. Donc c'est vraiment là, je pense, qu'est la différence importante. Bien sûr, c'est l'usager du quotidien avec son smartphone. Donc ça a été dit. Mais disons, il y a cette innovation là du côté de l'internet des objets, du côté des communications entre machines.
Véronique est avec nous en direct au téléphone. Bonsoir, Véronique.
Oui, bonsoir.
Vous êtes sur l'antenne.
Oui, merci. Alors bon, moi je vous appelle d'une petite commune des Côtes d'Armor, où on est confronté depuis un an et demi à l'installation d'une antenne relais. On a entendu parler, comme beaucoup de gens dans notre quartier, sur la commune, des fermes qui ont eu des soucis suite à l'implantation d'antennes relais, en fait, mort d'animaux inexpliqués. Et donc ça fait un an et demi qu'on essaye d'avoir des réponses, deux réponses. Est-ce que c'est dangereux, en fait, suite à la 4G, déjà a priori, bon, on se posait des questions, mais suite à l'arrivée de la 5G, est-ce que c'est dangereux ou pas pour les gens, et est-ce que c'est dangereux ou pas pour les animaux, en sachant que il y a quand même beaucoup d'animaux qui sont morts autour de chez nous. On n'en parle pas trop, mais personne ne sait d'où ça vient, et nous on voudrait essayer d'avoir des réponses. Voilà.
Merci Véronique, on a reçu beaucoup de courriels, de nombreuses questions à propos de la sécurité, de la santé. Hervé Lemars, que pouvez-vous répondre à Véronique sur les méfaits de ces antennes?
D'accord. Alors, déjà, je voudrais signaler que la plupart des gens et le public est tout à fait ignorant du nombre d'instances scientifiques et tout simplement de scientifiques qui font des recherches sur ce sujet de l'interaction entre les ondes électromagnétiques et la santé. C'est un sujet qui est étudié énormément.
Quels sont les résultats de ces études?
Justement, alors attendez, je vais vous donner les résultats dans un instant, mais je vous explique un petit peu comment ça marche. Vous avez actuellement entre 5 et 10 000 études qui documentent, études scientifiques donc, qui documentent l'interaction entre le vivant et les ondes électromagnétiques radiofréquences. Et vous avez tellement de littérature là-dessus qu'il faut des instances pour faire des synthèses, parce que personne ne peut appréhender un tel corpus de science tout seul. Il faut faire des synthèses.
Et alors, Hervé Lebarce, que disent ces synthèses? Alors, je vous bouscule un petit peu parce qu'on a beaucoup d'appels.
D'accord.
Faites pas des réponses
donc,
pas trop longues.
Je vais vous faire je vais vous lire un communiqué de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé.
Parce qu'à l'instant, vous voyez, on nous demande sur le site, ces ondes avec la 5G sont-elles dangereuses pour notre santé? Voilà. En quoi les ondes de la 5G seront plus dangereuses que celles de la 4G? Vous voyez, c'est le prolongement de ce qu'a dit Véronique.
Je vais vous dire tout de suite ce que dit l'OMS. Ouais. Et les autres instances de régulation dans le monde, il y en a des dizaines, mais là j'ai choisi de vous présenter l'Organisation mondiale de la santé. À ce jour, donc je cite, et après de très nombreuses recherches effectuées, aucun effet néfaste sur la santé n'a été lié de manière causale à l'exposition aux technologies sans fil. Et sur la 5G plus précisément, puisque les fréquences augmentent, l'OMS rajoute, à mesure que la fréquence augmente, la pénétration dans les tissus corporels diminue et l'absorption de l'énergie se limite à la surface du corps.
Donc, pas de danger.
Attendez, oui. À condition que l'exposition globale reste inférieure aux recommandations internationales, aucune conséquence pour la santé publique n'est anticipée.
Sur ce point de la santé de ces ondes, Alain Sibyl, professeur à Télécom Paris Tech.
Oui, ben je ne peux qu'aller dans le même sens. Si vous voulez, ce qu'il faut voir, c'est que la 5G, pour l'essentiel, les fréquences qui vont être utilisées sont de l'ordre de 3,5 GHz, et c'est un petit peu au-dessus de la 4G, pas fondamentalement, et donc il n'y a pas de différence très importante. En plus, il faut voir quelles sont les puissances, comme ça vient d'être dit. De toute façon, les opérateurs sont obligés de respecter des limites maximum en termes de champ, et ce sont les limites qui ont été largement imposées depuis un certain nombre d'années par ces organismes internationaux pour éviter tout risque. Bon, on parle des effets athermiques, donc c'est pas comme dans un four à micro-ondes, bien sûr, donc ce sont des effets athermiques, ce sont des effets des champs très faibles, et c'est pour ça que jusqu'à présent, on a pas réussi à démontrer de façon claire et non ambiguë des effets néfastes pour la santé. Alors ce que je voulais dire, c'est que là aussi, on parle des ondes millimétriques, typiquement c'est 28 GHz, donc on est presque 10 fois plus élevé effectivement que la 4G. Effectivement, la pénétration se fait essentiellement en surface, donc typiquement l'épaisseur de la peau, peut-être l'épaisseur des os. Et donc les ondes ne pénètrent pas dans les organes vitaux. Alors il peut y avoir une concentration, un dépôt d'énergie un peu plus important localisé. Notamment, c'est pas tellement les antennes des équipements de réseau, ça peut être les terminaux eux-mêmes. Par exemple, le portable qu'on porte à à portée de la tête. Là, la localisation peut être un peu plus forte, mais en revanche, l'onde ne pénètre pas, elle est plutôt réfléchie par le corps humain.
Des auditeurs nous signalent que...
Le dernier point, si je peux me permettre, c'est de dire que ces ondes millimétriques seront probablement très peu déployées, ou en tout cas pas avant un certain nombre d'années, pour des usages très particuliers, ce qui fait que la crainte aussi sous cet angle-là est probablement très infondée du fait de peu de réalité de l'exposition de nos ondes électromagnétiques pour aux ondes millimétriques pour l'essentiel de la population.
Mais des auditeurs nous écrivent tout récemment dans le journal du dimanche, le ministre de la Santé Olivier Véran a demandé d'attendre l'évaluation de l'Agence nationale de sécurité sanitaire avant le déploiement de la 5G. Cet avis sera publié sans doute au premier trimestre 2021. Ça veut donc dire qu'on a peut-être des doutes, Alain Sibyl.
Ça veut surtout dire, et je pense que c'est tout à fait compréhensible dans la position du ministre, que compte tenu de la sensibilité des populations à ces questions-là, il faut continuer à faire des études et il faut être capable de rassurer sous un angle scientifique des études, comme ça a été dit très largement, faites par des scientifiques qui ont des protocoles expérimentaux. Et c'est le seul moyen, par la réponse scientifique et argumentée et élaborée, de lever des inquiétudes des populations qui ne connaissent pas, qui n'ont pas la connaissance fine ou simplement la formation dans ces domaines. Et c'est tout à fait logique que des organismes étatiques et gouvernementaux demandent à leurs instances d'étudier la question dans la mesure où, par exemple, les fréquences changent notablement. C'est tout à fait normal. Mais personnellement, j'ai assez peu d'inquiétude parce que pour les basses fréquences, les réponses ont déjà été données et il y a des raisons de penser que pour les plus hautes fréquences, les effets, s'ils devaient exister, seraient encore moindres.
Raoul est à Perpignan et nous écoute. Bonsoir Raoul, bienvenue sur l'antenne de France Inter.
Bonsoir à tous. Merci pour vos émissions. J'ai une question concernant la sécurité. Je voudrais savoir quelle est la technologie qui va être choisie. Parce que j'ai eu une inquiétude quant aux données qui transitent sur les ondes pour certains pays. Mon fils est en sécurité informatique et il a mis un mouchard sur son téléphone, dont je ne citerai pas la marque. Et il s'est aperçu que toutes les données de son téléphone partaient vers la Chine, par exemple.
Alors, sur la technologie qui va être choisie pour la 5G, Alain Sibyl.
La technologie, disons que la 5G, c'est essentiellement une technologie qui permet de communiquer par radio, donc entre le dispositif et puis le cœur de réseau et bien évidemment des applications. Donc la problématique de la sécurité est une problématique très large, qui nous concerne tout un chacun dès qu'on fait usage du numérique. Il faut savoir que depuis la deuxième génération, donc le GSM jusqu'à maintenant, ces questions de sécurité ont été prises de plus en plus au sérieux par tous les ingénieurs, les équipementiers qui développent ces systèmes-là. Alors, il y a toujours des failles possibles parce que garantir une sécurité à 100%, ça n'existe pas. Et le plus souvent, c'est l'humain qui est le responsable premier. Quand on parle de mettre un mouchard sur le téléphone, comment se fait-il qu'il y a eu un mouchard qui a pu être mis ? Penser que les données peuvent être véhiculées en Chine, c'est-à-dire que quelque chose, il y a un dispositif là-dessus, un virus informatique peut-être qui s'est installé là, parce qu'il n'y a pas des précautions élémentaires qui ont été prises. Voilà, c'est plus à ce niveau-là. Mais si vous voulez, la radio elle-même, dès que les signaux sont véhiculés sur l'air, ils sont sous forme numérique, ils sont cryptés. Il y a des protocoles qui sont très sérieux, qui sont développés. Donc la sécurité, la garantie absolue à 100,00% n'existe pas, mais on est sur des 99,99%. Donc voilà. Et c'est plus l'humain auquel il faut faire attention. Et je pense que les gens qui se préoccupent de sécurité, c'est le segment humain en quelque sorte auquel ils font très attention.
Courriel de Pierre, je lis son courriel. On a beaucoup entendu parler des risques d'avoir des équipements 5G chinois avec la compagnie Huawei. Pourquoi, quels seraient ces risques? Existe-t-il des alternatives françaises et européennes? Encore d'autres courriels, de nombreuses questions. Huawei, le numéro un des équipements 5G, pourquoi est-ce dangereux? Est-il certain que Huawei et ses équipements ont des capacités d'interception qui seraient reliées au service de renseignement chinois? Alors sur tous ces points, Julien Nocetti, qui est chercheur associé à l'Institut français des relations internationales.
Eh bien, si vous voulez, en fait, ce qui s'est produit jusqu'à très récemment, c'est que le débat sur la 5G a moins porté sur la technologie elle-même que sur les équipementiers. Et là, évidemment, avec Huawei, on est au cœur du sujet, si vous voulez. Est-ce qu'a pointé l'administration américaine de Trump hein, depuis le début de la crise avec Huawei, donc fin 2018, ça a été l'installation supposée hein, par Pékin, par les autorités chinoises, de portes dérobées, hein, des backdoors. Non seulement dans les appareils, hein, les terminaux mobiles Huawei, mais aussi et surtout à l'avenir dans tous les réseaux 5G qui seront déployés et commercialisés.
Mais est-ce que ce risque existe ?
Alors c'est extrêmement délicat en fait de l'affirmer de façon péremptoire parce qu'en fait l'administration américaine n'a jamais apporté de preuves tangibles. Il y a des faisceaux d'indices, il y a différents bouts de preuves qui sont comme ça rassemblés, qui sont mis ensuite sur le devant de la scène internationale, d'où aussi des rapports de force très vifs entre États-Unis et Chine sur ce plan. Mais jusqu'à présent, aujourd'hui, les deux accusations principales américaines, à savoir risque d'espionnage et risque de sabotage, n'ont jamais été totalement prouvé. C'est pour ça qu'il y a autant d'inertie de l'Union européenne sur ce plan à accuser de façon frontale Pékin, parce qu'il y a, je le répète encore une fois, hein, il n'y a pas de preuve absolument irréfutable que ça se passe hein, de la façon dont Washington le pense.
Mais on apprend ce soir que le Royaume-Uni s'apprête à bannir Huawei du déploiement de la 5G. Julien Lucetti.
Effectivement. Alors là, c'est intéressant parce qu'en fait, le Royaume-Uni s'est jusqu'à présent caractérisé par une série de revirements sur la 5G. Alors il faut d'abord parler des relations entre Huawei et le Royaume-Uni hein, qui remontent à très longtemps, à un peu plus de 20 ans. Il y a des centres de recherche et de développement de Huawei présents sur le sol britannique, d'anciens hauts responsables politiques et militaires britanniques qui ont ensuite été embauchés par Huawei sur place. Donc il y a un sujet dès l'origine très sensible. Et ce qui s'est passé récemment, le dernier revirement en date entre Londres et Pékin sur la 5G, c'est à resituer dans le contexte post-Covid-19, hein, avec au fond un changement de ton général du Royaume-Uni sur la Chine, qui a accusé Pékin d'avoir couvert les responsabilités sur l'origine du virus, et deuxièmement sur la problématique liée à Hong Kong. Donc tout ça a créé une sorte de bulle, je dirais, pour les Britanniques qui, là, s'apprêtent à bannir Huawei des futurs réseaux 5G, sans que ce soit pour autant confirmé à 100%, encore une fois. Il y a encore des évaluations qui seront faites et des réponses politiques aussi à préciser.
Alain Sibyl, quelle est l'attitude de la France face à ce dossier Huawei pour le déploiement de la 5G ? On en est où actuellement ?
La France, elle a été depuis le début dans une situation un petit peu intermédiaire, de ne pas souhaiter obéir à des diktats américains qui ne reposeraient pas sur certains fondements. Je crois que l'attitude actuelle, c'est d'autoriser des équipements Huawei, mais dans un cadre relativement contraignant. D'ailleurs, la France et aussi l'Europe, de façon générale, est typiquement dans une situation un petit peu intermédiaire de prudence, parce que, comme ça a été dit, hein, je suis tout à fait d'accord avec ça, il n'est pas non plus certain, la crainte politique, c'est que, bien sûr, les industriels chinois sont très liés au gouvernement, et la crainte qu'il y a, c'est que, quelque part, le gouvernement puisse avoir un accès à ces équipements cœur de réseau, au travers desquels passeront des flux de données importants, y compris des données relativement sensibles, et c'est là qu'est la crainte, hein, vraiment les équipements de réseau. Et donc, la position de la France, c'est de dire, bon, on n'interdit pas, mais en revanche, on est très prudent, et les autorisations qui seraient données seraient des autorisations limitées, peut-être dans le temps, par exemple, et donc pas des autorisations universelles.
Marc, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avec nous en direct sur France Inter. Posez votre question. Vous êtes à Anche, c'est cela ?
Non, je suis à côté d'Anchers, Anche. Mais à NCHE, oui. Au permis météorologique, en fait, plus précisément à Chinon.
Très bien.
Voilà, au passage, je vous félicite de vos émissions. Et ma question est plus prosaïque, qui ne concerne pas vraiment la sécurité. Je considère que on a un besoin qui est d'avoir un téléphone mobile. Un second besoin qu'on a créé, mais qui finalement rend bien des services, c'est d'avoir Internet mobile. Et je constate avec effroi que l'ensemble du territoire est loin d'être couvert. J'évoquais avec nos techniciens tout à l'heure le fait que j'ai une forêt domaniale à côté de chez moi. Si je prends le malheur de vouloir y aller avec la carte IGN, qui me localise précisément, eh bien, il y a les deux tiers de la forêt qui ne me sont pas accessibles parce que je ne sais pas où je suis. Mmh. Voilà, si je n'ai pas pris la peine de relever à la méthode traditionnelle mon avancée dans les chemins, je me retrouve en zone blanche et donc je n'ai plus rien. Ça, c'est dans le cas où j'ai la 4G. Et la 4G est quelque chose de rare. Même à Paris, quand je viens à Paris, je constate que le métro se vante d'avoir la 4G partout. Oui. Je l'ai utilisé il y a une quinzaine de jours, c'était loin d'être le cas. Sur la ligne 13, il y a plusieurs coupures entre Miroménil et Champs-Élysées Clémenceau. Dans les autobus, j'utilise fréquemment le 95. J'ai une difficulté très grande à avoir une continuité d'accès à Internet.
Je comprends, on comprend ce que vous voulez. Bien sûr.
Alors, est-ce qu'on... Avant la 5G, je pense que l'urgence serait d'avoir déjà partout en France la 3G au minimum et la 4G au moins.
Hervé Lebars, est-ce qu'avec la 5G, on peut espérer la fin des zones blanches?
Disons que la 5G a, du fait de ses caractéristiques techniques, des capacités à s'adapter à différents environnements que n'avait pas nécessairement la 4G, puisque la 4G, c'était des cellules assez grandes et avec, une technologie qui a du mal à s'adapter aux différents territoires, aux différentes situations. Avec la 5G, on peut espérer avoir une meilleure, répartition sur le territoire avec des technologies qui sont adaptées à la fois aux courtes distances et aux grandes distances.
Question pour vous, Alain Sibyl, des auditeurs nous demande, mais quel est maintenant le calendrier précis du déploiement physique de la 5G en France? Il y aura des enchères au mois de septembre. De quoi s'agit-il, ces enchères? C'est quoi? Alain Sibyl.
L'attribution des fréquences.
Oui.
Puisque, en fait, dans la réglementation, on alloue des blocs de fréquences aux différents opérateurs, puisque c'est régulé, c'est réglementé, et pour éviter les interférences entre opérateurs, on leur alloue des blocs de fréquences. Alors depuis déjà assez longtemps, la 3G notamment, et même avant, ces blocs de fréquences sont payants, puisque c'est une ressource rare, et bien sûr, comme il y a un intérêt économique très important, eh bien c'est le gouvernement, ce sont les gouvernements qui font payer quelque part aux opérateurs ces blocs de fréquences. Donc les mécanismes de fixation des prix, c'est assez souvent des mécanismes d'enchères, et quelque part l'enchère se fait aussi sur la base d'un cahier des charges, et donc la réponse à ce cahier des charges par les opérateurs détermine finalement comment leur sont proposés ces attribuer ces blocs de fréquences.
Et qu'est-ce qui va se passer après?
Parce que c'est sur effectivement c'est sur 2020 qu'en principe le déploiement doit être effectué. Oui. Bon, la France est un petit peu critiquée par le fait qu'elle a un peu de retard par rapport à certains pays étrangers, mais ensuite bien sûr le déploiement ne sera pas en totalité sur toutes les zones du pays. Alors non seulement par rapport aux zones blanches, mais même c'est un certain nombre de villes pour lesquelles le déploiement va se faire en premier, et ensuite ça se fera progressivement. Et puis un dernier point avant de conclure, il faut être conscient aussi que la 5G ne va pas être massivement déployée tout d'un coup et après plus rien ne changera. Comme les générations précédentes, le déploiement est progressif. Non seulement il est progressif en termes de couverture, mais aussi en termes de fonctionnalité. Par exemple, au début et pendant quelques années, c'est ce qu'on appelle des greffons. C'est vraiment la partie radio qui va être déployée, et le cœur de réseau, lui, il sera déployé un peu plus tard, tout simplement parce que ce sont des investissements très très importants. Les opérateurs ne peuvent pas tout faire tout de suite, ce qui fait que les choses se feront progressivement sur les années qui viennent.
Alors, Maud nous a écrit, est-ce qu'il y aura un plus grand nombre d'antennes relais à travers la France? Alain Sibyl?
Alors, oui, alors en ce sens que c'est obligatoire, en ce sens que plus la fréquence augmente, plus les cellules sont nécessairement de petite taille. Donc, il y aura effectivement plus d'antennes, un peu plus d'antennes. Ça ne sera pas multiplié par 10, hein, parce que là encore, les coûts de déploiement des antennes sont importants. Mais oui, il faudra augmenter le nombre d'antennes de façon à ce que la couverture soit la bonne et que tout un chacun dans son usage ait accès à cette 5G dans de bonnes conditions. Bien sûr, les opérateurs ne sont pas tous au même niveau, hein, puisque c'est eux, même s'ils répondent au cahier des charges qui impose un certain taux de couverture minimum à un certain délai. Après, c'est aussi des investissements. Bon, c'est bien que les opérateurs n'ont pas tous la même puissance financière, ce qui fait que, comme la 4G, notamment, la couverture dépendra un petit peu du temps, du moment et de l'opérateur qui sera choisi.
Alors, on a des questions pratiques. Hervé Lebars, je rappelle, ingénieur et porte-parole de l'Association française pour l'information scientifique, les forfaits de la 5G seront-ils plus chers et faudra-t-il acquérir de nouveaux téléphones pour bénéficier de la 5G ?
Alors, sur les prix, je ne peux pas vous dire. A priori, je n'imagine pas vraiment une rupture en matière de prix. C'est plus la concurrence, si vous voulez, qui fait le prix plus qu'autre chose. Donc, ça dépendra effectivement si les opérateurs sont mis en concurrence. Et la deuxième question,
c'est... Est-ce qu'il faudra acquérir un nouveau téléphone pour bénéficier de la 5G ?
Oui, bien sûr, c'est des technologies qui sont nouvelles, qui nécessitent de nouveaux matériels, donc des nouveaux téléphones, absolument.
Est-ce qu'un maire a la capacité de s'opposer au déploiement de la 5G dans sa ville légalement? Est-ce qu'il peut le faire, Alain Sibylle?
Je ne suis pas le plus spécialiste en la matière, mais je pense oui, qu'il peut mettre un certain nombre de barrières. Après, effectivement, pourquoi est-ce qu'il le ferait? Parce que, disons, les administrés considèrent qu'il y a des risques. Globalement, je pense que ou alors c'est par la limitation, par exemple, des champs, c'est-à-dire imposer des puissances d'émission plus faibles, par exemple, c'est le genre de choses qui peut se faire. Mais je pense que si ça se fait, ce sera certainement très limité, parce que il faut quand même bien être conscient que, en fait, l'utilisateur moyen, il ne demande que ça. Je veux dire, on est consommateur de numérique depuis 30 ans, et bien qu'il y ait des soucis qui puissent s'exprimer, qui sont tout à fait légitime. Je veux dire, plus le temps passe, plus les technologies arrivent, plus le consommateur en demande et en redemande. Donc, si on est capable de rassurer le plus possible sur les risques et sur pour les données personnelles, pour la sécurité des données et pour la santé, je pense que ces situations-là seront probablement très limitées et absolument pas généralisées sur le territoire. Enfin, c'est ma conviction.
Disons. Question d'auditeur sur le site de l'émission pour vous, Julien Nocetti. Des auditeurs nous écrivent, quelle est la situation à l'étranger? J'ai lu qu'aux États-Unis, il n'y a plus de débat autour de la 5G, que c'est fait, qu'elle s'est déployée, qu'il n'y a pas de polémique. Julien Nocetti?
Alors, il faut bien différencier aux États-Unis la différence entre des débats qui portent sur le déploiement national. Et là, c'est vrai qu'il y a une relative accalmie, on va dire, en comparaison de l'année précédente, où il y a eu quelques poches de résistance, on va dire, et quelques interrogations sur les applications de la 5G. Et de bien dissocier avec les impacts internationaux. Et là, les États-Unis sont aujourd'hui en pointe, évidemment, pour contester la montée en puissance technologique chinoise, avec notamment Huawei et tout le volet de sanctions qui a été pris contre cette entreprise chinoise, et aussi le vaste effort de lobbying qui est actuellement entrepris par la Maison Blanche pour justement convaincre ses partenaires européens et alliés de ne pas s'équiper avec du matériel et des équipements Huawei. Donc ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui très structuré, je dirais, à Washington, pour faire en sorte que les grandes démocraties européennes et alliées dans le Pacifique, le Japon, l'Inde, l'Australie, ne soient pas sous la coupe technologique de la Chine.
Yann, bonsoir Yann.
Bonsoir.
Merci d'écouter France Inter et de participer au Téléphone Sonne.
Oui, ma question c'était simplement de savoir quel intérêt avions-nous en fait en tant que particulier de tenir la 5G, dans le sens où moi il me semble que l'utilisation et le développement de la 5G elle est plutôt destinée en fait à un usage professionnel pour des entreprises, type pour des commandes de voitures à distance, des choses comme ça. Donc la question que je me pose c'est, est-ce que nous en tant que particulier, moi j'habite à la campagne, en Haute-Vienne, dans un pays perdu, j'ai de la 4G. et ça va très bien, ça fonctionne très bien. J'ai pas besoin, moi personnellement, j'estime ne pas avoir besoin de 5G. Au contraire, comme votre interlocuteur précédemment disait que les consommateurs n'attendent que ça. Non, les consommateurs n'attendent pas que de la 5G. De la 4G, pour certains, ça fonctionne très bien avec un usage usuel, courant. Ça fonctionne bien. Donc la 5G, pour moi, c'est plutôt un usage professionnel. Après, il y a un intérêt de le développer pour le particulier parce qu'il faut que ce soit rentable. Mais dans mon esprit, pour moi, c'est plutôt usage principalement professionnel.
Hervé Lebars vous répond.
Oui, alors vous avez dit que vous êtes à la campagne, mais peut-être que vous avez une connexion filaire chez vous qui est correcte, peut-être la fibre ou un ADSL assez puissant et qui vous permet d'utiliser votre téléphone uniquement, enfin la 4G sur votre téléphone uniquement de manière un petit peu intermittente. Maintenant, il y a des gens aussi sur le territoire qui ne seront jamais couverts par la fibre parce que ils sont un peu isolés, il faut passer des câbles, etc. Et dans ce contexte, peut-être que à terme, hein, c'est pas pour tout de suite, hein, mais à terme, cette technologie qui permet d'avoir des débits aussi élevés que la fibre, mais par les airs, permettra de désenclaver ces zones-là et fournir un très haut débit, qui aujourd'hui n'est possible qu'avec la fibre, à des zones isolées. Donc il faut voir ça aussi comme ça. C'est bien sûr, c'est pas pour tout de suite, ça va prendre du temps, mais il y a aussi cette possibilité-là de désenclaver certains territoires. Et il y a aussi des gens qui sont au contraire dans des zones très denses, donc le contraire de vous, et dans des zones où la 4G atteint ses limites de capacité et où quand le voisin téléphone, bon, j'exagère un peu, hein, mais c'est pour vous expliquer un peu le contexte, le voisin téléphone, vous avez du mal à téléphoner vous-même. Bon, donc dans ce cas-là, la 5G aussi permettra de faciliter ces choses-là. Donc, on est aux deux extrémités un peu de l'utilisation.
Joël nous écrit « Ne risque-t-on pas de basculer dans une société de consommation toujours plus effrénée avec cette 5G et des masses de données sur nos habitudes de consommation qui profiteront encore plus aux GAFA ?» Réponse, Julien Nocetti, au téléphone.
Oui, alors c'est un des risques potentiels, bien évidemment, parce qu'en fait... Le développement et le déploiement de la 5G, il est indissociable non seulement de l'automatisation et de la robotisation des activités économiques, mais aussi des masses toujours plus importantes de données qui sont produites, exploitées, raffinées et échangées. Et ça aujourd'hui, qui à la lumière hein, de la crise du Covid-19, on a quand même réalisé que ce sont avant tout les grandes plateformes qui réalisent des bénéfices et savent exploiter toutes ces données produites. Donc avec la 5G et la quantité toujours plus importante de données qui seront échangées, on peut s'attendre à justement que ces acteurs tirent profit avant les autres. De cette 5G. Donc ça c'est un risque évidemment potentiel et c'est aussi pour ça que il y a une attention plus particulière aujourd'hui en Europe, dans les pays européens, qui est portée à la question de la souveraineté numérique, voire de l'autonomie stratégique technologique. Et ça c'est quelque chose qui est couplé étroitement entre la 5G, entre l'intelligence artificielle et à l'avenir l'informatique quantique.
Alors, je reviens sur ces questions d'auditeurs. On les a entendus ce soir qui se posent des questions. Est-ce qu'on a vraiment besoin de cette 5G? La 4G fonctionne très bien. Et Michel Arras, il nous a écrit, imaginons que l'on renonce à la 5G. Quelles conséquences? Est-ce que, par exemple, il y aura une saturation des réseaux mobiles actuels? Hervé Lebars.
Eh ben. Si vous voulez, on sera effectivement limité par rapport aux nouveaux usages qui n'existent pas nécessairement aujourd'hui, donc on a du mal à anticiper parfois. Il est parfois difficile de prévoir l'avenir. Ouais. Donc on va se retrouver probablement limité de ce côté-là. Et par ailleurs, comme je le disais à l'instant, à l'occasion du Covid-19, de cette crise, beaucoup de gens se sont mis à travailler depuis chez eux et ils ont pu constater effectivement que les réseaux en France sont pas parfaits et que quand on a une réunion à distance avec des collègues, parfois il y a certains collègues qui passent très mal et donc on peut pas considérer, si vous voulez, aujourd'hui de but en blanc que le réseau est parfait et qu'il n'a besoin d'aucune amélioration. Je conçois que ce soit pas vital, mais en même temps, on voit bien qu'on atteint des limites et qu'elles sont pas très loin de nous, finalement, ces limites.
Cette formule d'un auditeur qui nous dit, il s'appelle Jean-Marc, et il nous dit, cette inquiétude, toutes ces rumeurs autour des dangers de la 5G, est-ce qu'on aura un Tchernobyl dans la poche? Comment expliquez-vous toutes ces rumeurs autour de la 5G, Alain Sibylle?
Bon, j'explique tout simplement parce qu'il y a une perte générale d'analyse un peu scientifique des choses. Les peurs, c'est parce qu'on mélange tout. Alors quand on mélange tout, qu'on ne sait pas, on ne met pas le doigt sur de quoi il s'agit, bien sûr, c'est extrêmement facile sur des réseaux sociaux qui sont des raccourcis incroyables de véhiculer des peurs. Après, il faut savoir si c'est par rapport à la sécurité des données, par rapport à, aux usages qui deviennent peut-être un petit peu malsains quelquefois du numérique généralisé, si c'est des inquiétudes sanitaires, voilà. Moi, ce sur quoi j'insiste beaucoup dans ce contexte-là, c'est non pas de contester toute inquiétude, mais c'est vraiment d'essayer de mettre le doigt dessus par une analyse rationnelle et scientifique, ce qui veut dire, je sais très bien un certain nombre de choses, et il y a aussi des choses que je ne sais pas. Et quand je ne sais pas répondre, eh bien, je fais des études, je complète. Bon, les peurs, c'est un peu moyenâgeux, en quelque sorte, parce que il y a pas assez, effectivement, dans tout ce qui est dit, dans nos sociétés actuellement. C'est très complexe, ces choses-là. La 5G, vous voyez, elle s'est quand même complexifiée par rapport à la 4G, qui s'est complexifiée par rapport à la 3G, qui s'est complexifiée par rapport à la 2G. Et donc, avoir des messages qui sont des raccourcis, il n'y a rien de tel que ça pour véhiculer des peurs. Bon, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, les scientifiques, les ingénieurs sont là. Eh ben, ils répondent à des questions au téléphone sonne. Et c'est certainement la meilleure façon, je pense, pour essayer, non pas de faire disparaître toutes les inquiétudes, mais en tout cas de les rationaliser et de savoir mettre le doigt sur ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas.
Hervé Lebars, les auditeurs ont réagi à ce que vous disiez au début de l'émission en citant des organismes internationaux qui ont dit que la 5G n'est pas dangereuse, que ses fréquences ne sont pas dangereuses. Et là, on nous écrit, que pensez-vous de ce que dit le Centre de recherche international contre le cancer, qui fait partie de l'OMS? Il considère que les radiofréquences peuvent être cancérigènes pour l'homme.
Alors,
mais l'émission est terminée, Hervé Lebars, très, très court.
Ce classement, il date de 2011, il est largement obsolète. En plus, il s'agissait d'un classement dit de danger qui n'a pas de valeur pratique. Les seuls classements qui ont une valeur pratique sont les classements dits de risque. Et ce n'est pas le cas, ce n'est pas ce que fait le CIRC. Le CIRC fait que du danger, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'extrêmement hypothétique et qui depuis en plus n'a pas été confirmé du tout.
Le temps a passé très vite, merci à nos invités. C'était le Téléphone Sonne avec Julien Nocetti, Alain Sibylle et Hervé Lebars.